Aujourd'hui, je vais parler un peu sur le thème de rencontrer Dieu dans ses afflictions. En préparant ce partage, je pensais donc à l'année qui vient de passer, et on peut compter les bénédictions, voilà, que Dieu a apportées dans cette année, mais aussi peut-être aussi les difficultés, les épreuves qu'on a pu traverser. Et puis avoir des interrogations pour 2023, qu'est-ce qui nous attend, que ce soit au niveau de la famille, ça, quand on voit aussi le monde, comment les choses tournent, c'est parfois assez incertain. Et en parallèle, je pensais au récit de Noël. On a baigné un peu dans ça, et on voit que c'est un moment où beaucoup de prophéties ont été accomplis, et donc voilà, Dieu, on voyait que Dieu était à l'œuvre. Le fait que Christ soit né d'une vierge, le fait que une étoile ait guidé les rois mages, qu'il soit né à Bethléem, enfin voilà, tout ça c'était prophétisé, et donc c'est quand même extraordinaire d'avoir vécu ce moment-là pour Marie, pour Joseph, pour les bergers qui ont vu carrément les anges qui ont annoncé cette bonne nouvelle que le Sauveur, voilà, était là. On peut dire que c'est un moment, on est sur une montagne ou quoi. Enfin, et parallèlement à ça, c'était pas le cas pour ces personnages, parce que Marie, quand elle a appris cette nouvelle, elle est, bien sûr, c'était extraordinaire de rencontrer l'ange et tout ça, mais ensuite, dans son vécu, ça n'a pas été du tout évident d'être enceinte. Les gens pensaient qu'elle avait été infidèle. Joseph savait pas comment se comporter. Elle risquait d'être lapidée. Le regard dans son village pendant, voilà, tous ces mois-là. Donc, voilà, il y a l'accomplissement des promesses et en même temps le vécu qui est parfois pas évident, et donc le voyage qu'ils ont dû faire pour aller à Bethléem pour que cette prophétie soit accomplie. Quand on est enceinte en général, hein, on n'est pas trop en forme et tout, et quand ils arrivent, ils sont pas accueillis parce que encore le jugement des gens et tout ça, et puis donc il se retrouve un peu tout seul dans une grande pauvreté, elle accouche dans une étable, donc seule avec son époux, la crainte, la menace de mourir peut-être dans l'accouchement, et parallèlement à ça, l'encouragement des bergers qui arrivent parce que les anges ont annoncé cette nouvelle juste après. Donc, quand ça se tasse un peu, eh bien, cette menace d'Hérode qui cherche à tuer Jésus. Donc, ils doivent fuir. Et puis, après, ils entendent parler de ce massacre de tant d'innocents. Donc, c'est le doux, le goût du doux et de la mer en même temps, quoi, qu'ils ont pu vivre. Donc on n'est pas le même niveau, mais dans nos vies, dans notre marche avec Dieu, on a toujours ça en fait, le doux et l'amer. On va pas, enfin Dieu permet parfois des saisons où, peut-être c'est tant de bénédictions, et en même temps, quand on prend notre croix chaque jour, Jésus nous dit que il y aura aussi ce goût d'amer, où il y aura de l'opposition, et Jésus le dit dans Jean chapitre 16 et verset 33 à ses disciples, parce qu'il va bientôt aller à la croix, et donc il les prépare, et il dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc un peu tout ça pour dire que la souffrance, les afflictions, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Il y a que au ciel qu'on n'aura pas ces choses-là. Et on sait aussi que chrétiens ou non chrétiens, tout le monde traverse en fait les vicissitudes de la vie. Mais en fait, il y a différentes sortes d'épreuves, en fait, ou de difficultés. Pour le non-croyant ou le chrétien charnel, on va dire qu'il y a trois types d'hommes, on va dire. Il y a le non-croyant, celui qui n'a pas rencontré Dieu. Il y a le chrétien qui naît de nouveau et qui essaye de marcher avec Dieu. Et puis après, il y a le chrétien aussi, chrétien charnel. On peut être charnel à des moments de la journée. Voilà, c'est quand on prend pas notre croix et puis on tombe et en même temps, ben, Dieu nous aide à nous relever. Et voilà, donc par rapport aux épreuves, aux difficultés, on a une première catégorie où on a ce verset qui parle un peu des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui dit « Malheur aux méchants » dans Ésaïe chapitre 3 verset 11. « Malheur aux méchants, il sera dans l'infortune car il recueillera le produit de ses mains. » C'est-à-dire que voilà, on récolte des choses qui ne sont pas bonnes, si on est malhonnête, si on est avec des gens voilà, qui sont des bandits ou quoi, ben on risque soit d'aller en prison, soit de se faire tuer par quelqu'un de la bande, enfin voilà. Donc en fait, on va récolter ce qu'on aura semé, quoi. Dans Galates 6, 7 et à 9 aussi, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc c'est un peu cette chose-là. « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et on sait que Dieu est juste aussi, donc voilà, il jugera toutes choses parfaitement, même si nous, on ne comprend pas, on n'a pas toute la connaissance, on a au moins cette assurance. Mais le cœur de Dieu, on voit dans tous les domaines, que ce soit le méchant, c'est-à-dire la personne qui suit pas Dieu, et ben c'est le désir que cette personne change, en fait. Au travers peut-être de souffrances. J'entendais un témoignage, enfin à la télé en fait, je zappais, et c'était un jeune homme, donc voilà, qui a une famille et tout ça, et il dit « je veux pas être comme mon père qui était un brigand et il était au milieu de ça, un petit enfant là, il a vécu des choses pas évidentes, et dit voilà, il a changé et maintenant il est un grand-père pour mes enfants et tout ça, et donc Dieu a amené des choses dans la vie de son père qu'il a peut-être pas amené au salut, mais au moins qu'il a amené à se repentir, à changer de direction, et voilà, et Dieu veut, en fait, il a créé chaque âme, chaque être humain. Il ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se tourne vers lui, quoi. C'est toujours dans un désir de restauration, de sauver, de se faire connaître, en fait. Et après, pareillement, pour le chrétien qui ne suit pas les voies de Dieu, Dieu dit que Dieu est un père et il corrige ses enfants. Donc, dans Hébreux 12, 5, il nous est parlé de ça, de la correction de Dieu. Mais tout ça, c'est vraiment rempli de l'amour de Dieu, parce qu'il sait que le péché, ça mène tout le temps à la mort, à la destruction, et c'est pas son plan. En fait, il y a quelque chose, il nous a créé à son image, et il veut qu'on le rencontre, et puis qu'on ait la vie qu'il a prévue pour nous, quoi. Donc c'est toujours le but de la repentance, de la restauration et de vivre une vie, la vie que Dieu a prévue pour ses créatures, quoi. Car le Seigneur châtie aussi celui qu'il aime. C'est toujours dans Hébreux 2, 5. Bon, j'ai pas lu tout le passage. Et donc, on vit dans un monde maintenant qui est touché par le péché. Et donc, ce qui va avec, c'est la souffrance, les épreuves, les afflictions. Mais aussi pour le chrétien, en fait, il y a un autre niveau, c'est le combat spirituel et la sanctification. Donc le combat spirituel, c'est-à-dire que en même temps, on est un témoignage, nos vies sont un témoignage pour Dieu et aussi pour les anges. Et on sait qu'on a un ennemi qui est Satan. Donc là, on va parler en fait de la vie de Job. Comme on a eu des prédications sur Job là, avec Philippe. Et moi, j'étais dans mes lectures, j'étais dans Job aussi. Et donc, voilà, ça m'a interpellée. Et donc, on va un petit peu parcourir la vie de Job. Tout le monde a lu l'histoire de Job, le livre de Job. Pas toujours facile à comprendre. Quand il y a les amis, les conseils qu'ils donnent et tout ça, moi, des fois, j'étais perdue parce que ce qui me troublait, en fait, c'était que dans la Bible, il y a des conseillers, en fait, voilà, les conseils qui sont donnés, c'est pas des bons. Alors, je me suis dit, mais c'est la parole de Dieu. Alors, il faut toujours lire la parole de Dieu dans son contexte. Et en plus, c'est-à-dire qu'on peut, les conseillers pouvaient donner des choses qui sont vraies, mais c'était pas adapté à la situation. Dans Proverbes, il nous est dit d'avoir une parole en saison, que ce soit, voilà, que Dieu nous montre, voilà, qu'est-ce qui est bon à dire à ce moment-là et tout ça. Et on va voir un petit peu ces choses-là. Donc, ce qu'il faut savoir sur le livre de Job, c'est que c'est un des plus anciens livres qui a été écrit. Et je le savais, mais ça m'a parlé sur le fait que Dieu est en souci par rapport aux questions que l'homme se pose. Quelle est la question principale que n'importe quel être humain se pose? Ça va être pourquoi la souffrance. Et de savoir que Dieu, quelque part, a permis que un des premiers livres qui a été écrit et qu'on retrouve maintenant dans la Bible, ben c'est Job. Parce qu'en fait, ben, ce qui nous préoccupe, ben, Dieu, ça le préoccupe aussi. Enfin, il est préoccupé pour nous. Il veut répondre à nos questions. Il ne va pas répondre à nos questions comme nous on voudrait, mais en même temps, il va élargir notre compréhension, voilà, sur ces sujets-là. Donc, cet homme Job, pourquoi est-ce que... Quelle a été son épreuve, en fait? C'était que Satan, eh bien, il voulait montrer à Dieu que... non, plutôt là. C'est Dieu qui montre à Satan, dans les lieux célestes, que Job est un serviteur intègre et tout ça. Et donc... Ça nous dit aussi que ben Dieu nous montre en exemple devant les anges. On le saura au ciel, c'est sûr. Mais la Bible nous dit en fait, ouais, qu'on est quelque part un exemple pour les anges, même pour les démons, d'être des serviteurs, des servantes devant Dieu. Donc ça, c'est encourageant. Et donc bien sûr, Satan, comme c'est, on sait que il ne fait qu'accuser. Il dit mais non, mais Job ne t'aime pas gratuitement. Et il n'obéit que par intérêt. Et si vous n'étiez pas là dimanche, tu étais là dimanche. Donc voilà, ça. Philippe en a parlé. Et quand on Satan, en fait, dans Jean chapitre 10 et verset 10, qu'est-ce qui le caractérise? Quel est son but, en fait? C'est de dérober, d'égorger, de détruire. Il est l'accusateur des saints, jour et nuit. C'est pour ça qu'il faut être conscient que le diable a des stratégies, des ruses, à notre rencontre, quoi. Donc, si parfois, d'un coup, il y a une bénédiction dans nos vies et tout d'un coup, quelque chose nous arrive et... Alors, nous, on peut pas tout discerner, mais en même temps, faut savoir que on a un ennemi et qui veut vraiment, enlever les bénédictions, voler, égorger. Ça veut dire quelque part, c'est tuer, mais en même temps, égorger, c'est le fait qu'on ne puisse plus parler, le fait que ça se passe à la gorge. Donc, qu'on ne soit plus un témoignage. Et puis, détruire ben, ce que Dieu veut faire dans nos vies. Donc, comment était Job, chapitre 1 ? C'est, Job était un homme donc intègre, il l'a dit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Donc ça, c'était... Les gens savaient que Job aimait Dieu et suivait Dieu. Après, de l'extérieur, les gens disaient de lui que c'était, ben, c'était cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Donc ça veut dire qu'il avait donc un témoignage, même peut-être les gens qui ne croyaient pas en Dieu ou quoi, eh ben ils pouvaient dire mais cet homme-là, il est vraiment il a un témoignage auprès des hommes, pas simplement devant Dieu. Et puis aussi, Dieu dit à Satan, toujours dans le chapitre 1, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc ça, c'est Dieu carrément qui le dit. Et donc, quelle était la vie de Job ? Mais en fait, c'est surtout au chapitre 29 qu'il est parlé de comment il était. Et il est dit, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Donc tout dans le chapitre 29, en fait, dans Job, on voit que Job était vraiment considéré par toutes les personnes et il parlait pas simplement, mais comme c'était un homme très riche, il était très généreux. Il s'occupait des veuves, des orphelins, des étrangers. Enfin, vraiment, c'est très détaillé. Et tout le monde le respectait, quoi. Même si les gens n'avaient pas une bonne conduite, eh ben, Job essayait de les ramener dans le bon chemin. Voilà, c'était pas simplement des paroles. C'était vraiment... Il était actif, mais dans le sens... Il était concerné par les gens, il aimait les gens. Son épreuve va consister, premièrement, où il va perdre toutes ses possessions et ses enfants. Donc ça veut dire que ce soit... je ne sais pas s'il lui restait une maison, mais en tout cas, en très peu de temps, voilà, une tempête qui a tout ravagé... Quelques serviteurs s'en sont sortis, ils sont revenus et puis ils ont dit, voilà, tous tes troupeaux sont morts, toute ta récolte est détruite, tous tes enfants sont morts. Et donc voilà, il ne restait plus que sa femme. Voilà. Et donc lui, dans Job chapitre 1, verset 21, donc déjà une épreuve comme ça, voilà ce qu'il dit. « Je suis sorti nu du sein de ma mère. » Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc, moi, je ne sais pas si je dirais ça, mais en même temps, voilà. Donc c'est, eh ben, Satan, il revient à l'attaque et il lui dit, ouais, d'accord. Parce que, ben, pareil, il dit, tu vois, mon serviteur, eh bien, il reste fidèle à moi et tout. Et Satan, il va encore et il dit, ben, oui, mais t'as pas touché son corps. Hein? Et je suis sûre que si, quelque part, s'il y a la maladie qui arrive, là, il va te maudire. Et donc, il fait venir une maladie avec des ulcères et tout ça. Donc dans Job chapitre 2 verset 10, la parole de Job, il dit, puisque sa femme lui dit de maudire Dieu et de mourir, parce qu'apparemment il a une maladie, mais il ne meurt pas. Donc il souffre. Il dit quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc ça nous montre quand même, il n'était pas parfait, Job, on sait. Et personne ne peut être parfait de toute manière. C'est pour ça que je disais aussi qu'on est sur un chemin où Dieu fait une œuvre dans nos vies. Il a commencé une œuvre, il nous est dit dans Philippiens, et il sera fidèle pour de l'accomplir. Mais sur cette terre, il y a un travail de sanctification. Et quand on laisse Dieu agir dans nos vies, eh bien, on est de plus en plus à sa ressemblance. Et notre confession est celle qui est en fait à l'intérieur, le travail que Dieu a fait en nous, où on garde une confiance quand même, voilà, peu importe les situations. Et en même temps, on va voir qu'au travers de cette épreuve, Job va apprendre des choses, être repris par Dieu, mais en même temps, au niveau de son caractère, quoi, on peut pas dire qu'il, voilà, n'a pas péché, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi quand on voit ça, c'est que c'est dans nos épreuves, dans l'épreuve de Job, Dieu met des limites. Mm-hmm. Premièrement, il dit tu touches aux possessions, tu touches aux enfants, c'est déjà ta chair, mais tu touches pas à son corps. Après, deuxième épreuve, plus profonde, tu touches à son corps, mais tu prends pas sa vie. Donc, de savoir, Dieu est au-dessus de tout ce qu'on peut voir ou considérer, analyser, Dieu est au-dessus. Et aussi 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13, il nous est dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ça, c'est un réconfort quand on est en plein, quand on commence à entrer dans des situations compliquées. Voilà, c'est Dieu. Dieu met des limites. Donc là, pour Job, ce qui se passe, c'est que très rapidement, on avait vu que c'était un homme qui était très respecté. Voilà, tout allait bien. Il perd son statut devant les hommes. On pense qu'à cause de la maladie, il est défiguré. Il est vraiment complètement touché. Et là, des fois, quand on voit une personne qui physiquement a des plaies purulentes et tout ça, on peut être choqué et pas vouloir s'approcher de la personne. C'est peut-être pour ça que les trois amis, pendant quelques temps, ils étaient choqués, ils sont restés là, silencieux. Et puis, petit à petit, on voit que non seulement il est défiguré, et puis les gens un peu ne s'approchent plus de lui, mais il va être dévalorisé, moqué, jugé, trahi par sa femme qui lui dit maudit Dieu et puis meurt quoi, c'est la meilleure des solutions, alors que en général voilà, l'épouse est dans un couple, est là pour soutenir, souffrant, il a perdu toutes ses richesses, donc c'est voilà, c'est nous on lit ça, mais c'est bien d'essayer de s'identifier à ce qu'il a pu traverser. Et dans Job 30, justement, versets 6 à 9, il y dit « Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. » Ils ont même fait des chansons pour se moquer de lui et tout ça. « Je suis en butte à leurs propos. Ils ont horreur de moi. Ils se détournent. Ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. » Donc, on sait que Christ aussi a vécu cela. Et lui, il était le Fils de Dieu. Et il l'a fait quand même, parce que il voyait, lui savait qu'en passant par là, on aurait le salut, quoi. Donc c'est quelque chose de précieux. Donc il y a trois amis donc qui viennent, qui arrivent là après un moment de silence assez important quand même. Il y en a un qui commence à parler, mais les trois en gros, parce qu'on va pas détailler tout ça, ça prendrait trop de temps. Leur attitude en fait, ils voient et présentent Dieu en fait selon un système, une règle à suivre. Pour eux, quelque part, ben, les justes sont récompensés, les injustes sont punis, et premièrement, toute souffrance est une punition pour le péché. C'est un petit peu, voilà, à chaque fois dans leur discours, c'est ce qui va être redit d'une manière ou d'une autre, et tout ça. Deuxièmement, donc, Job souffre, donc, Job est pécheur. Donc, c'est un peu ce raisonnement-là qu'ils ont. Et après, il donne différentes illustrations et quelque part, ouais, Job, il faut que tu te repentes et à chaque fois, quand Job, il exprime sa souffrance, sa douleur, et il lui dit, mais non, tu peux pas parler comme ça. Il y en a même certains qui disent ça. Alors que bon, ça nous parle aussi à nous, comment on est avec des gens qui souffrent. On peut avoir toujours une parole et on va, et c'est peut-être pas la parole que Dieu veut qu'on dise. C'est important de compatir, d'essayer de se mettre à la place des gens. Et parfois, les épreuves aussi sont là pour qu'on apprenne à s'identifier. Parce que si on passe pas par telle épreuve, eh ben, on entend que telle personne a vécu cette chose. Un enfant qui s'éloigne de Dieu, qui vit dans le péché, tout ça. Et puis, ça reste une théorie. Et on va dire, on va peut-être même dire un verset, dire une promesse de Dieu, mais s'identifier vraiment, ben peut-être il faut y passer, quoi. Pareil au niveau de la maladie, ça peut être... Moi, je peux pas dire que j'ai vécu dans mon corps beaucoup de souffrances. Et donc... je suis peut-être pas à même de m'identifier avec quelqu'un qui est passé pas comme ça. Je pense à Ingrid qui a vécu son cancer. Je pense qu'il y a une dimension qu'elle a que je n'ai pas. Et bon, Dieu a permis qu'elle le vive. Et puis Dieu l'utilise aussi, justement, auprès de personnes pour dire que ouais, Dieu est fidèle dans ces moments-là aussi. Donc, ce qu'on voit aussi au travers de ces trois amis là qui sont c'est que même si on se dit chrétien, on n'a pas, les chrétiens ne donnent pas toujours les meilleurs conseils, on sait pas, voilà, souvent le fait de dire il est chrétien, c'est un peu un label, et faut dire qu'on est chrétien, mais en fait on est des pécheurs sauvés par grâce. On reste pécheurs, donc si on n'est pas guidé par Dieu, si on n'est pas enseigné par Dieu, si voilà, notre théologie n'est pas la théologie de Dieu, mais la nôtre. Hein. Enfin, voilà, nos manières de penser humaines, eh ben, on va donner un conseil qui sera peut-être pas le bon conseil. Donc, c'est pas parce qu'il y a l'étiquette chrétien que c'est parole d'évangile, justement. Je sais pas si tu as ces expressions-là en espagnol. Parole d'évangile, c'est-à-dire, c'est une parole... qu'on peut pas, enfin qui est sainte et tout ça, qui est pure et tout ça. Donc voilà. Même à un moment donné, Job dit celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Donc avoir en fait Dieu, comme l'a dit Philippe, il veut une relation, une communion avec Dieu. Le but pour nous d'être sur cette terre, c'est de connaître Dieu et connaître son cœur. Et bon, ça passe aussi par l'instruction de Dieu, connaître la parole de Dieu. Mais après, comment on utilise ces choses-là? Et l'attitude de Job, lui, est assez différente. Après, à chaque fois, quand il y a un des amis qui parle, Job parle. Il parle de sa souffrance, il parle de toutes ces choses. et aussi il questionne Dieu. Et en fait, ça relève ça et ça révèle quelque chose, c'est que lui, Job avait quand même une relation avec Dieu, communion. Peut-être qu'il était, il était peut-être un peu légaliste. On est tous légalistes. On fait des choses pas toujours gratuitement. Hein. Voilà, ça fait partie de la sanctification. Mais Job connaissait quand même le cœur de Dieu. Et souvent, lui, il pose des questions parce que justement, il veut entendre la voix de Dieu. Il veut être en communion avec Dieu. Ce qui n'est pas le cas des trois amis qui sont plus dans voilà. Voilà la règle, et puis c'est comme ça que ça se passe. Et donc oui, les épreuves, elles arrivent pour différentes raisons, et c'est pas à nous de juger, quoi. Et une des paroles de Job, là dans Job 23, verset 3, il dit « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. » Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Et qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui ? Ça, c'est dans Job 7 et verset 17. Et puis, à un autre moment, quand un des amis a déroulé un peu leurs arguments, et il dit « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? S'il voulait contester avec lui, sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément ?» Et ça, c'est dans Job 9, chapitre 2, jusqu'à 4. Donc voilà, lui, il a des questions aussi, mais il sait que Dieu règne, quoi. Et qu'il est juste et qu'il est parfait. Mais il a aussi parfois des déclarations qui montrent qu'il a, il connaît sa position devant Dieu. Il n'est pas ébranlé parce que ce qu'on peut lui dire. Parfois, nous, on peut être ébranlé hein, par les accusations qu'on peut recevoir et tout ça. Lui, il dit, je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Dans Job 16, 17. Ouais, je ne sais pas si je peux dire que mes prières sont pures, mais en fait, si on est transparent devant Dieu, on peut le dire, parce que, voilà, on est créé à l'image de Dieu, et si on est humble, on peut se tenir devant Dieu, pas à cause du sang. Et aussi, on sait que le sacrifice, il pratiquait les sacrifices, il le pratiquait pour lui-même, pour ses enfants. Voilà, donc l'image du sacrifice, même si Christ n'était pas encore venu, on n'avait pas les Écritures comme nous aujourd'hui, il savait que le sang versé, c'était ça qui nous réconciliait avec Dieu. Donc il faut se remettre un petit peu à cette époque. Voilà, il n'avait pas la Bible, il n'avait pas tout ce que nous on sait, et pourtant Dieu, quand il se révèle, il se révèle, quoi. Et donc, on voit, j'ai pas tous les versets, qu'il savait, il connaissait sa position. Et ça, c'est important pour nous, en tant que chrétiens, de savoir que le sang de Christ a payé pour tous nos péchés. Qu'on ne passera pas en jugement. Voilà, on est sauvés pour toujours. Bien sûr, il y aura c'est pas un jugement, mais c'est un tribunal, quand on sera au ciel, on passera. Il y aura peut-être des pleurs, des larmes, parce que nos œuvres, peut-être on est passé à côté de certaines choses, mais c'est pour en fait qu'on soit récompensé. Dieu, ça c'est d'autres doctrines, mais donc voilà. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu, et on peut pas en douter. Peu importe ce qu'on peut traverser. On est sauvé pour toujours. Et dans toutes les questions, toutes les paroles de Job, on peut voir que devant Dieu, on peut épancher nos cœurs, on peut ouvrir nos cœurs à Dieu. Il n'y a pas une parole qui sera on va se dire qu'on va être damné parce que on a dit telle chose. On peut poser des questions, on peut être en colère peut-être aussi. On voit ça dans les psaumes. On voit beaucoup, presque on dit, on peut tout dire à Dieu. Nos incompréhensions, notre amertume, toutes ces choses-là. Mais en même temps, souvent dans les psaumes, on voit que toute cette partie où tout va mal. Après, il y a un moment où on remet Dieu à sa place. Dieu, tu es sur ton trône. Moi, je suis une créature. Moi, je ne sais pas tout. Et en fait, il y a comme une paix qui arrive. Et puis après, ça amène donc une confession de qui est Dieu. Ça amène aussi une proclamation. Oui, Dieu, tu es fidèle, par exemple. Et puis une adoration, en fait. Et donc, la confession, en fait, c'est se mettre d'accord avec Dieu. On a des péchés, et donc ça veut dire que on va les dire, on est transparent. Et en même temps, on va dire, oui, Dieu, je suis d'accord avec toi. Cette chose-là, c'est pas ce péché-là, c'est pas à ta gloire. Ça détruit ma vie. Et donc, je vais être d'accord avec toi et je vais laisser cette chose-là. Donc voilà, on peut tirer toutes ces leçons au travers de... Quand vous relirez le livre de Job, ça nous apprend beaucoup de choses. Alors il y a un quatrième personnage qui arrive, et c'est Élihu. Et donc, c'était le plus jeune d'entre eux. Et donc lui, il a été silencieux beaucoup plus longtemps, puisque... Il a entendu toutes les paroles du premier, du deuxième, du troisième. Et donc, il dit lui-même, moi, j'étais le plus jeune, donc je me suis tue. Parce qu'en général, c'est les gens plus âgés qui ont la sagesse et tout ça. Et à un moment donné, Job, dans toutes ces discussions et tout ça, dans tout ce qu'il disait, quelque part, il demande à Dieu, il dit, Dieu, oui, parle-moi, à plusieurs reprises, quoi. Et on va dire que Élihu, il va être la réponse un peu déjà à cette prière. Dieu va parfois utiliser une personne en chair et en os qui va commencer à répondre à ces questions. Et donc, il a une attitude différente. Il reprend Job, il reprend aussi les amis et il est même en colère, mais bon, c'est une colère sainte. Il va commencer à parler de la création. Et après, Dieu, plus tard, quand il va parler directement à Job, il va reprendre ça. Il va, où étais-tu quand j'ai créé les cieux et la terre et tout ça? Donc, Élihu, il commence à faire ça. Et en même temps, il dit à Job, si tu as des choses à dire ou dis-le. Alors que les autres, les trois autres, ils ont déroulé leur argumentation. Il fallait qu'il s'arrête de parler pour que lui puisse parler. Donc c'est vrai, là il y a une autre attitude de cœur, quoi. Donc voilà, Élihu, il commence à être une réponse pour Job. Et là, Job, il répond rien. Il dit pas à Élihu, tes arguments sont pas bons. Enfin, là, il est vraiment, il commence à être à l'écoute. Et donc ensuite, Job, il dit à Dieu directement. Il lui dit, j'ai des questions à te poser. Il faut que tu me répondes, quoi, en gros. Mais Dieu intervient. Et nous, on a parfois cette attitude, on dit, Dieu, j'ai des questions à te poser, enfin, il faut que ça se passe à ma manière. On est comme ça. Et Dieu va le surprendre. L'Éternel répond, alors c'est 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, et là, ça va être, c'est Dieu qui va poser des questions. Je ne me rappelle plus le nombre, je crois que c'est 73 questions. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Alors voilà, je t'interrogerai au verset 3 et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Donc là, c'est la terre. Verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'est lancée du sein maternel? Donc il va parler de toute la création. Il va parler des animaux et tout. Et suite à ça, Job réalise, Dieu, tu es le créateur, tu es parfait, et moi je suis une créature, et Job se réalise qu'il ne peut répondre à aucune des questions que Dieu a posées, parce que Job n'était pas là lors de la création. Donc, nous on a besoin de méditer sur ça, je suis une créature, et Dieu est le créateur. Et une manière aussi où on se décentre de nous-mêmes et on se centre sur Dieu. Ensuite, Dieu va commencer à lui parler. Oui, après, à la fin, Job 38 et Job 42, à la fin de tout ce que Dieu a dit et tout ça, Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois point. » Et au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et Philippe a parlé bien sûr de ça. Et là, c'est vrai que quand on a à nouveau cette rencontre avec Dieu, cette communion avec Dieu, même si nos questions sont pas répondues entièrement, c'est plus le sujet. C'est cette rencontre avec Dieu qui nous transforme. Et on voit que par la suite, donc Job est transformé, il a rencontré Dieu, il a eu aussi des réponses. Et on voit qu'après, Job est restauré, Dieu lui redonne son statut, il a à nouveau des richesses. Il a à nouveau des enfants, mais c'est pas le double. À chaque fois, c'est le double au niveau de ses richesses. Mais il n'a, pour les enfants, il a 10 nouveaux enfants. Parce qu'en fait, c'est les enfants qui sont morts. En fait, ils vivent éternellement. Ouais. Donc Dieu a donné le double si on compte ceux qui sont morts, puisqu'ils sont avec Dieu. C'est-à-dire que quand il dit que tu auras, il a eu le double, il a eu le double d'enfants, en fait. Parce que ceux qui sont morts,
ils sont toujours morts.
Même s'ils sont plus sur terre, c'est le double. Il en a 20. Ils sont avec Dieu, tu vois. Alors que tout ce qui a été détruit et tout ça, il a donné le double parce que c'est sur cette terre. Donc ça parle aussi de la vie éternelle, quoi. Et là après, on voit même que Dieu va reprendre les trois amis, parce qu'ils ont été de mauvais conseils et tout ça. Et il va demander à Job de prier pour eux. Et eux doivent faire des sacrifices et tout ça, les trois amis. Et ça montre aussi le travail que Dieu a fait dans le cœur de Job, parce qu'il aurait pu se dire, franchement, ils m'ont pas aidé et tout. Enfin, le pardon, quoi. Dieu a œuvré a fait une œuvre de pardon dans le cœur de Job. Et je pense que ça, Dieu a voulu peut-être aussi enseigner ses trois amis qui étaient très légalistes, qui ne connaissaient pas Dieu vraiment. Donc, comme je disais au début, Dieu, dans sa manière de faire, il veut toujours la restauration. Il veut qu'on connaisse Dieu, que ce soit au travers des corrections ou au travers d'une rencontre intime avec Dieu. Et aussi, une chose aussi que, donc, après, il a vécu longtemps, il a vu ses arrière-arrière-arrière-petits-enfants et tout, parce qu'il a vécu 170 ans, il a vu 4 générations. Donc Dieu a restauré les choses. Mais après, pour chacune de nos vies, c'est pas parce que Job, c'est ce qui s'est passé pour lui, que Dieu va faire ça obligatoirement pour chacun, non. Mais c'est sûr que le fait, une rencontre avec Dieu, c'est unique. en fait. Que Dieu prenne une personne, la ramène à lui à travers d'une maladie, qu'on reste pauvre d'une certaine manière et qu'on fasse confiance à Dieu dans notre pauvreté. Tout ça, en fait, on sait que Dieu est juste en toutes choses, quoi. Si on a sa présence dans n'importe quelle situation, voilà, c'est suffisant, quoi. Et une chose, en fait, que Job n'a jamais su, il n'a jamais su qu'il était... comment dire, Dieu ne lui a pas dit... En fait, c'est parce que c'est Satan qui a... que c'était un défi, quoi, que c'était un enjeu spirituel. Il n'a jamais su, en fait. Nous, on le sait parce que c'est écrit dans le livre. Donc, lui, il a continué sa vie, mais il n'a jamais su que cette épreuve qu'il a eue, c'était pour montrer à Satan qu'en fait, il était vraiment un serviteur de Dieu, quoi. Donc, nous non plus, on n'aura pas toutes les réponses à nos questions. Mais... Ce qui importe, c'est de connaître Dieu et dans les difficultés et on sait comment la parole de Dieu peut nous relever, nous faire tenir dans ces moments-là, les promesses de Dieu. Et quand on parlait de la création aussi, dans Psaume 121 et Psaume 104. On voit que ouais, Dieu, j'ai entendu un message de pasteur Chaleur, comment il est dit, il est important de méditer sur la création de Dieu et parce que ça justement ça nous décentre, ça nous montre la grandeur de Dieu, ça nous montre le caractère de Dieu, qu'il est sage, omniscient, attentionné. Quand on voit comment vivent les animaux, comment et comment voilà Dieu pourvoit, comment il a organisé les choses, mais encore plus en fait. Et l'exemple que pasteur Chaleur donnait, c'était ce sont pas les ratons laveurs, c'est qui construisent des barrages,
des castors.
Il dit c'est déjà extraordinaire de voir des castors construisent des barrages et tout ça, mais en fait ils construisent toujours de la même manière, des barrages. Bon, c'est déjà bien. Mais là, dans Psaume 21, au verset, je crois, 23, il nous est dit que l'homme travaille et construit aussi, mais nous sommes créés à l'image. Et les constructions des hommes, c'est pas toujours la même chose. Il a donné la sagesse à l'homme. Et aujourd'hui, on voit tout ce que l'homme peut construire, peut faire. On est vraiment créé à son image. On est son œuvre, on est son chef-d'œuvre, c'est nous. On est pécheurs, mais on est son chef-d'œuvre. Et déjà, quand on peut être émerveillé par la création, on peut être émerveillé par le règne animal, le règne des vivants, mais on peut être émerveillé malgré le péché, parce que nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, créé à son image. Et donc ça peut être aussi vraiment un encouragement extraordinaire. De savoir que Dieu nous a donné le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Ça, c'est aussi extraordinaire. L'Église, le corps de Christ, où on peut... C'est un refuge pour nous. Et on peut se découvrir en Christ. Nous, on peut avoir une image de nous-mêmes, voilà, de notre vécu, une petite dame me disait, ah oui, mes frères, ils me disent toujours que je suis une paresseuse et que je fais, et que je profite, voilà, je profite du système et tout ça. C'est incroyable. Moi, je la vois, elle est joyeuse, je vois qu'elle crée à l'image de Dieu, quoi. Bon, elle est malade et tout ça, mais elle me dit, et à chaque fois, c'est un peu comme un disque rayé. Elle me dit, oui, mais mes frères, moi, ils disent que je suis qu'une paresseuse, que si je suis dans cet état, en fait, c'est pour profiter du système. Et donc, nous, parfois, on a peut-être certains disques dans nos têtes. Et donc, le fait d'écouter la parole de Dieu, ça nous lave et ça change le disque. Et d'être dans l'Église avec le corps de Christ, les chrétiens, on peut vivre quelque chose d'autre. Les gens vont aussi nous transmettre l'image que Dieu a pour nous aussi. Et puis aussi, Dieu nous a créés pour des œuvres. Hein, il nous a créés sur terre avec un corps et tout ça, et pour le glorifier. Donc on peut servir Dieu de manière pratique. Un peu comme Job l'a fait.